Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
C'est la visite tant attendue de Gabriel Attal, premier ministre français en sol canadien et en sol québécois. À l'heure où on se parle et où on enregistre notre segment Tout savoir en 24 minutes, Mario, le discours de M. Attal qui devrait commencer, discours historique là, à l'Assemblée nationale.
Qui est en retard de 7 minutes à l'heure où on se parle.
Bon, qu'il se tienne pour dit, Mario Dumont a remarqué
qu'il est en
retard.
C'est pas la première fois qu'il y a quelques minutes de retard dans une visite diplomatique du genre, quand même. Oui, c'est pas une première historique.
Ça peut arriver, effectivement.
Surtout qu'il y avait, pour vrai, là... Je niaise pas, il y avait une journée là, ridicule. Il commençait tôt ce matin, il était à la Chambre des communes, une rencontre officielle avec Justin Trudeau, conférence de presse, séance de signature, conférence conjointe, là, il y allait d'une cérémonie militaire dans un cimetière. Il n'y avait même pas d'heure de repas. Là. De là, il s'en allait. Ben, il a dû manger dans l'avion. De là, il s'en allait prendre l'avion, débarquer à Québec. À Québec, c'est direct à l'Assemblée nationale. Rencontre avec François Legault, discours devant l'Assemblée nationale, une couple d'autres affaires protocolaires, puis à soir, un grand dîner officiel. Je vais t'avouer, c'est des journées... Monsieur Biden garde ça plus espacé. Oui. Et lui, il vient d'avoir ses 35 ans il y a quelques jours, quelques semaines. Là. Il se bâtit un horaire de premier ministre.
Oui, voilà. Il y a la moitié quand même, là, et encore plus bas de l'âge de Monsieur Biden. Mais on se comprend, on lui espère d'avoir le temps de se prendre du petit Saint-Hubert ou quelque chose la route. Là, parce que c'est vraiment...
Mais non, il partait d'Ottawa. C'est sûr qu'il mange du Tim Horton. Au Canada anglais, tu manges du Tim Horton. S'il veut avoir l'air d'un peu canadien, un petit peu canadien d'Ottawa...
Je souhaite pas.
Du Tim Horton.
Je souhaite pas.
C'est pas mangeable. Non, c'est bon.
Un peu. Ça dépend quoi. Un déjeuner, OK. Le reste...
Une bonne soupe, là. La bonne soupe.
Ah. soupe du jour,
Il va faire un discours à l'Assemblée nationale dans les prochaines minutes.
Dans les prochaines minutes, un discours qui est retenu comme historique, mais dans sa grosse journée d'aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses. Hein, parce que non seulement M. Attal a un horaire chargé, mais il doit aussi composer avec les sensibilités Québec-Canada, Mario. Ouais. Ça, c'est pas une mince affaire à faire.
Mais là, à Ottawa, ça a bien été, les valeurs communes avec M. Trudeau, l'environnement, tout ça, mais ça a été poli et tranquille. Là.
Oui.
Il n'y a personne qui va... En tout cas, on va voir ce qui va se passer à Québec. Peut-être que ça va être poli et tranquille. Ce sera une visite qui aurait été en général plutôt économique, plutôt poli et tranquille. Mais si, moindrement qu'il fait à Québec des déclarations un peu plus passionnées, qui parle de laïcité, d'identité, avec un peu de passion...
On prend ça comme un appui français. Là.
Ben, pas un appui, mais on prend ça comme un intérêt, mettons, français, parce que... À Ottawa, c'était poli et tranquille. Bon, une entente, c'est feux de forêt, c'est très bien. Là, il y avait 350 pompiers l'année passée, français qui sont venus aider dans nos feux de forêt. On était très, très contents de les avoir. Puis là, on va avoir plus de collaboration, bravo. Il y a plein de bonnes choses, mais... Puis là, il a dit, bon, on partage les valeurs avec M. Trudeau, mais tu sais qu'il y a une valeur qu'il partage plus avec la CAQ qu'avec M. Trudeau, Gabriel Attal.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire la laïcité.
Ah.
Lui, il a été ministre de l'Éducation 6 mois. Il a interdit de façon proactive un signe religieux dans les écoles. Il a été comme premier ministre il y a quelques semaines dans un dossier entre un élève à qui un directeur d'école a demandé d'enlever son signe religieux. L'élève a mal réagi, a menacé le directeur d'école. Premier ministre s'en est mêlé.
Oui.
Pour rappeler les directives de laïcité dans les écoles. Mais il pourrait ne pas parler de ça aussi, de dire, regarde, je m'en mêle pas. Au Québec, là, ça divise les partis entre Ottawa puis Québec. Mais il pourrait décider de faire une fleur à François Legault puis à la CAQ puis de parler de laïcité. Fait que c'est ça qu'on va surveiller.
Oui, c'est ce qui va être à voir parce que plus tôt aujourd'hui, quand il était à Ottawa, il a ramené les termes qui avaient déjà été dits, là, la posture historique de la France. Là, c'est-à-dire non-ingérence, non-indifférence. C'est-à-dire on n'est pas indifférent à tout ça.
On s'intéresse à l'histoire du peuple québécois, mais on ne s'ingère pas, on se mêle pas des affaires politiques pour ou contre le référendum sur l'indépendance. On n'est pas mêlé à ça.
Voilà. Et donc,
on froisse pas Ottawa, Mais on est amis de nos descendants, mettons, qui sont rendus au Québec. Là.
Voilà. Et
de nos cousins.
Ça va être à écouter. Il y avait des annonces économiques aussi qui étaient aux alentours de tout ça, entre autres. Mais c'est le fameux CETA, hein, l'accord de libre-échange avec l'Europe, qui était au cœur de toutes les discussions. Parce qu'en France, je rappelle qu'on a décidé de ne pas ratifier là, pour l'instant cet accord-là.
Ouais, le Sénat. C'est juste ouais. Le Sénat qui a voté contre dans un vote qui avait l'air plus pour... disons, calmer la colère des agriculteurs puis de ceux qui sont anti toute forme d'accord international, qui sont pour oui. Un certain isolationnisme.
Un protectionnisme assez intense, merci.
Ouais, c'est ça, mais...
Parce qu'il y en a de la grogne dans le milieu agricole, en France particulièrement, oui, en ce moment, en Europe, mais
sauf
reste...
que les chiffres que Gabriel Attal a donnés ce matin, même dans le dossier où ils sont le plus nerveux, le dossier du bœuf, la balance commerciale Canada-États-Unis est favorable à la France.
Oui, absolument.
Il envoie plus de produits de bœuf ici qu'on a. C'est marginal. Puis dans les deux cas, c'est pas des grosses parts de marché, c'est des petits chiffres, mais quand même. Puis dans l'ensemble du secteur agricole, il envoie des fromages. Fait que tu sais, c'est pas le vote là est aucunement justifié par les chiffres. Dès que tu regardes les faits, tu te rends compte que le vote des sénateurs était juste sur des perceptions.
Oui.
Puis je pense que Emmanuel Macron, Gabriel Attal, le parti qui est au pouvoir en France veut que cette entente-là se poursuive. Parce que c'est pas une entente, c'est vraiment bizarre. C'est une entente qui est en vigueur depuis 6-7 ans, là. C'est juste qu'il reste des votes de Parlement pour l'avaliser de façon finale.
Depuis le 21 septembre 2017, ça dure, là. Puis c'est
en vigueur.
Non seulement en vigueur, mais en action dans des champs qui sont assez stratégiques. Merci, parce qu'il y a un volet de cette entente-là qui est sur tout ce qui est minerais critiques. Là. Tout ce qui est utilisé pour de l'armement, des technologies de fine pointe.
Les auto-électriques.
Du lithium, qu'on a beaucoup ici au Canada, et dont dans l'Union européenne, particulièrement en France, on s'approvisionnait où avant pour ça? En Russie. Là, il y a une guerre. On veut mettre toutes sortes d'embargos économiques vis-à-vis de la Russie. On veut arrêter d'acheter leurs produits. On se tourne vers le Canada. Fait que c'est bien mieux d'avoir un accord de libre-échange dans ce temps-là pour être capable de transiger des matières comme celle-là. Bref, c'était des gros dossiers économiques. Et là, maintenant, on passe plutôt, comme tu le dis, aux politiques. Qu'est-ce qu'on va entendre de M. Attal?
Puis qu'est-ce qui sera dit sur le français? Parce que quand même, le gouvernement Attal, puis Macron, le président Macron, on fait de la protection du français, même si ça n'a pas du tout la même signification en France que chez nous. On fait quand même de la protection du français, de la valorisation du français, un gros enjeu. Donc, j'ai hâte de voir là, comment ça va se passer à l'Assemblée nationale.
Tout savoir en 24 minutes.
On parlait de laïcité quelques instants, Mario, mais c'est un dossier qui va être encore suivi pour un bon moment, du moins parce que la Commission scolaire English Montreal a annoncé hier soir son intention de pousser jusqu'à la Cour suprême le dossier de la contestation de la loi 21 sur la laïcité de l'État ici au Québec. Là. Donc on...
Moi, je suis pas surpris. J'ai toujours pensé que ça serait le cas, mais bon, c'est une confirmation.
Mais c'est sûr que quand tu as un appui préalable...
Du gouvernement fédéral, ouais, c'est ça.
Et du gouvernement fédéral, on va venir vous aider, on va envoyer nos avocats, on va sortir les frais des contribuables pour venir vous appuyer en Cour suprême si ça se rend là. Mais tout intérêt quand même à
c'est
amener
tentant,
ça.
Ouais.
Jusqu'à la
donc,
Cour suprême.
Mais la décision devait quand même se prendre officiellement. Il y a ses prix là, avant hier soir au conseil scolaire, là, au conseil des commissaires de la commission scolaire English Montreal.
Oui, et donc là, on va être à l'étape de savoir si la Cour suprême accepte ou non d'entendre la cause en question. Parce qu'il pourrait refuser aussi, là, pourrait voir les premiers jugements.
Ouais, il pourrait dire, le jugement, on regarde le jugement de la Cour d'appel sommairement, puis vous nous faites valoir, parce que là, eux doivent faire valoir des erreurs dans le jugement. Si tu vas à la Cour suprême, c'est que tu dis la Cour d'appel
s'est trompé
ou il y a des failles dans son jugement. Effectivement, la Cour suprême pourrait dire, ben, les failles que vous nous nommez, là, nous, on les regarde puis on voit pas passer la lumière. Il n'y a pas de failles. Mais ça serait étonnant, c'est que le sujet est tellement délicat, la cause est tellement grosse, intéresse tellement de gens d'un bout à l'autre du Canada.
Ça touche la Charte des droits et libertés.
Fait que la probabilité, c'est que la Cour suprême va dire, on s'en saisit, là, on va regarder ça.
Puisque pas, bien évidemment, plus au gouvernement de la Coalition Avenir Québec, là, Simon-Jean Barrette, le ministre de la Justice, qui a réagi très fortement aujourd'hui en disant au gouvernement fédéral de se mêler de ses affaires, ramener des formulations, entre autres, là, d'attendre Robert Bourassa en disant que le Québec est une société distincte, va le rester, puis qu'on a le droit de prendre nos propres décisions par rapport à des enjeux comme ceux-là. Puis il a aussi reparlé de l'argent qui est dépensé par la Commission scolaire English Montreal.
Oui, mais ça, c'est pas un problème. Dans les écoles, il y a trop d'argent.
Oui, hein?
Il y a trop d'argent dévolu à l'éducation.
C'est vrai, ça. Hein?
Faut trouver d'autres places comme les tribunaux pour en passer un peu. Là.
Voilà. Donc, on rit, Mario, mais...
Non, mais c'est cynique de même.
Oui, parce que c'est 1,3 million de dollars jusqu'à date. Là. Puis on s'en va en Cour suprême, ça, c'est pas fini.
Il n'y a pas une telle chose dans les budgets des commissions scolaires que le budget poursuite. C'est-à-dire que c'est de l'argent du ministère de l'Éducation là, qui est envoyé dans la structure, qui descend dans... Puis dans cette commission scolaire-là, ben, c'est de l'argent qui était prévu pour l'éducation qui est dévolu à une cause devant les tribunaux.
Puis on va continuer de l'argent de cette caisse-là, Mario. C'est ce qui s'en vient, effectivement, du budget scolaire. Donc, de la commission scolaire English Montreal, dossier qui est pas prêt d'être fini.
Actualité.
Toujours dans les affaires Québec, Ottawa, on a appris aujourd'hui de par la Société canadienne d'hypothèque et de logement, là, qui, eux, ont fait une compilation de chiffres. On apprend que le Québec recevrait pas toute la part du logement proportionnel à sa population, là, dans tous les montants qui ont été attribués par le fédéral, dont les grandes annonces, là, plus récentes du gouvernement Trudeau. Mais surtout pour les fonds qui existent déjà, là, on se comprend. Il y a des inquiétudes pour l'argent qui s'en vient, parce qu'on réalise que l'argent qui est déjà là, mais ça arrive pas assez. Là. Concrètement, le Québec a reçu jusqu'ici 14 % des fonds qui sont alloués là, pour tout ce qui est logement.
Mais problème, ça, qui sort ça?
La Société canadienne
d'hypothèque
et de logement.
C'est ça la nouvelle. Parce que c'est une société fédérale. Je dois avouer, je ne sais pas, on dirait qu'il y a une équipe de jeunes. On a reçu une entrevue de jeunes économistes à la CHL qui ont l'air assez dégourdis, qui n'ont pas l'air d'avoir peur de nommer les faits. Pas qu'ils font de l'opinion. Ils arrivent avec des chiffres et des données, mais... Rends-tu compte comment le gouvernement du Québec a l'air fou?
C'est pas eux qui ont tiré la sonnette d'alarme,
là, c'est Alex, c'est toi, mettons, là, que ton fournisseur d'assurance t'appelle. Ça fait 10 ans que t'es même, là, avec la même compagnie d'assurance. Puis un des gens, là, hey, ça fait des années, là, votre calcul, si vous faites le total, les protections que vous avez, vous faites avoir. Parce que là, c'est comme. Je crois pas que c'est indépendant du gouvernement fédéral, un peu la SCHL,
oui.
Mais quand même. C'est normalement, au Québec, là, on paye des fonctionnaires au ministère des Finances, au ministère de l'Habitation.
Pour analyser ça.
Et au SAIC, le service des affaires, le secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, c'est qui a pour rôle là, de s'assurer que dans les relations avec le reste du Canada, on a notre juste part dans chacun des ministères.
Ça, c'est le bruit des fonctionnaires, ça?
C'est le bruit du fonctionnaire qui lit la nouvelle aujourd'hui puis qui se dit... Ah ben, la CHL a trouvé qu'on se fait avoir, mais nous autres, on s'en est pas rendu compte.
Ça pour dire, Mario, que c'est quand même pas une petite erreur qui a été détectée de ce côté-là par la SCHL. On va les saluer, d'ailleurs, qui ont fait un meilleur travail.
Monsieur Legault pourrait faire un référendum sur l'habitation.
Il pourrait.
Pour avoir nos budgets.
C'est le Québec, 23 % de la population canadienne, c'est 14
%. C'est plus 23. Hein? Ça baisse tellement vite, faut se mettre à jour, c'est rendu à 22.
Puis, c'est vrai, puis je te préviens, descendu là.
Ben, oui, ouais, non, mais c'était 22 points... Parce qu'on disait 23, c'était 22,5, mais en 2-3 ans, là, c'est passé à 22,3, 22,2, 22,0. Et je t'annonce tout de suite qu'en 2025, ça va être 21,8 ou 21,9. Probablement 21,8. Ça baisse, c'est pas croyable. L'immigration, tu sais, parce qu'on dit au Québec, on reçoit beaucoup d'immigration, mais oui, hors proportion par rapport... Mais rien à voir avec ce qui se passe...
Dans le reste du pays.
Où c'est vraiment plus hors proportion. Donc, si tu fais la proportion du Québec là-dedans, malgré tout, malgré qu'au Québec, on dit les demandeurs d'asile, on a une immigration qu'on n'a jamais vue, malgré tout, notre poids dans le Canada baisse. Oui, donc, on n'a pas notre part en habitation et pourtant, on est, écoute, à Montréal, la situation du logement, c'est une des pires au Canada.
Oui, parce qu'il y a 29 milliards de dollars qui est donné dans ce fonds-là pour les nouveaux logements, pour en construire. On touche 4 milliards à peu près autour de tout ça. Mais le problème, c'est que c'est surtout dans tout ce qui est logement abordable. Le Fonds pour le logement abordable, le FLA, et le programme de prêt pour la construction d'appartements, le PPCA. Et ça descend. Là. Dans le FLA, c'est 6 % seulement de la somme. Bon, on se comprend. Avec le poids démographique du Québec, 6 % seulement. Puis après ça, ben, si on fait une comparaison... Mais en Ontario, ils ont au-dessus de la moitié du fonds. Là. Eux vont toucher là, au-dessus de 4,1 milliards de dollars là, dans ce cas-ci.
Ça veut dire que c'est l'Ontario qui ramasse la grosse pointe de la tarte. Là.
Oui.
Pas mal qu'il y a d'autres provinces. C'est pas juste le Québec là, qui a pas sa part si l'Ontario en a autant.
Voilà. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont intéressants. Puis j'ai hâte de voir quelle va être la réaction politique autour de tout ça. Il y a le Bloc québécois qui a déjà dénoncé haut et fort là, cette chose-là. Mais reste à voir les réactions du Québec, les réactions de M. Legault. Référendum en logement, Mario? Tu vas peut-être lui donner une idée.
Tout savoir en 24 minutes.
Il y avait sur la table un projet pilote du côté d'Élection Québec pour être capable de, dans certaines villes, aux prochaines élections municipales de 2025, de voter par Internet. Hein? Mais tout ça, ça vient avec des enjeux de sécurité extrêmement grands. Et malheureusement, mais ça a été annoncé aujourd'hui par Élection Québec.
Tu vas te souvenir, parce que c'est toi qui les avais convoqués à l'émission. On avait reçu, tu sais, nos gens, là, on leur a parlé souvent, tu sais, du Hackfest, là, tout ça.
Ben oui, Patrick Mathieu et autres,
qui sont des spécialistes du hacking, mais qui s'en font une spécialité pour protéger la société. Donc, ils sont, comme on dit, du bon côté de la force, là, côté clair, du côté lumineux de la force. Je me souviens de l'entrevue. Lui, il disait, non. Il n'avait pas confiance là, du tout. Il était super inquiet là, de tout ça. Il disait que ça avait l'air facile, tu sais, comme système à pirater. Puis, parce que si tu fais pirater ton système de votation pendant un vote, c'est difficilement réparable, là,
oui. Tu peux pas dire, OK, on recommence les élections
le dimanche d'après.
C'était pas bon le dimanche d'après avec l'organisation que
donc,
tu dois déployer.
Il y a un côté de moi où je suis pas assez surpris qu'Élection Québec regarde ça comme il faut puis se sont dit,
On les aura d'ailleurs un peu plus tard dans l'épisode, là, qui vont venir expliquer toute la décision. Même s'il y a des pans, on se comprend, là, l'appel d'offres, ça demeure quelque chose d'anonyme, là. On peut pas en parler, là. Mais quand même, on a décidé, là, parmi les soumissionnaires qui sont venus à l'appel d'offres, on a décidé de retenir personne. Puis ça, comme tu le dis, c'est peut-être une bonne nouvelle dans une moins bonne nouvelle. C'est triste que ça tombe à l'eau, là, finalement, ce projet-là. On dit qu'on va le reprendre à une date ultérieure, si les conditions sont bien faites, si on a des bons soumissionnaires. Mais ça veut dire, en gros, qu'on a regardé les candidats qui se sont présentés pour être capables de bâtir une votation par Internet. Puis on a dit, c'est pas assez fort.
Aucun qui nous rassure.
Oui, donc une bonne nouvelle dans une mauvaise.
On avait une firme extrêmement réputée au Canada dans ce domaine-là, mais ils ont truqué les élections à Donald Trump.
Dominion?
Ouais.
C'est vrai.
Ça a été dit à Fox News. Ah ben non, c'est vrai.
J'hésiterais à dire ça, j'ai pas le goût de me faire
poursuivre. Ça leur a coûté 500 millions pour se dédire, là. Hein?
Mais c'est ça. Dominion, c'était une blague. Ne poursuivez pas Cube Radio pour un milliard, s'il vous plaît.
C'est ça, 700 millions que ça a coûté à Fox. Ça a coûté la job. Ça a coûté la job aussi à Tucker Carlson, entre autres.
Et aux autres. Parce que quand Dominion décide de poursuivre, il poursuit fort.
Mais en fait, la poursuite de Dominion était basée sur le fait que ils avaient des courriels ou hors d'onde, en privé.
Ils disaient qu'ils mentaient.
Ils disaient eux-mêmes, ben non, les élections, tout était correct, puis tout ça. Puis en onde, ils disaient au public, ah, Trump s'est fait voler les élections, les machines de vote, c'est n'importe quoi, ça truque les élections. Et ça s'est comme retourné contre eux, là, d'avoir deux discours.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
Opération policière spectaculaire aujourd'hui à Laval, au beau milieu de la A440, alors qu'on a retrouvé les propriétaires, ou du moins, pas les propriétaires, les conducteurs, je vais dire comme ça, d'une BMW noire qui avait filé entre les doigts de la police en fin de semaine. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez vu à la maison, une vidéo qui est devenue virale dans laquelle on voit là une BMW noire échapper là, littéralement des mains de la police avec des manœuvres complètement dangereuses. Là. On avait tenté de les arrêter dimanche après-midi du côté du SPVM. Puis la voiture là, avait ni plus ni moins fait de marche arrière sur un trottoir en plein milieu d'une rue à sens unique. Avait échappé là, aux policiers en faisant des manœuvres super dangereuses. Et là, mais aujourd'hui, on ne sait pas évidemment par quelle technique policière on a réussi à retrouver la BMW. Mais gros déploiement là, en plein milieu de la 440 alors qu'on a eu toutes sortes de voitures de police qui sont intervenues dans ce qu'on appelle l'interception à haut risque. On avait peur que les gens aient des armes à feu dans la voiture, entre autres. Donc, on est intervenu rapidement puis efficacement du côté de la police. Reste à voir ça va être quoi les accusations, mais c'est dans quel type de dossier, encore une fois, Mario, qu'on se retrouve autour de tout ça?
Vol de voiture.
Voilà. Donc, c'est encore une fois un de ces cas, mais on peut voir au moins.
Mais c'est parce que tout le dossier du vol de voiture devient suffisamment gros qu'il vient avec toutes sortes d'autres de problèmes de violence, de danger sur les routes, de poursuites. Ça défait toute la rhétorique, ben, le vol de voiture, c'est un crime sans danger, sans violence, ça fait pas mal à personne, c'est juste du matériel, les assurances, ça repaye ça. Quand tu laisses un crime prendre des proportions dans ta société, il n'y a rien de sain qui en découle, là.
Économie.
Quand il y a un sondage sur les habitudes alimentaires qui sort, Mario, je suis toujours interpellé, pis cette fois-ci, particulièrement parce qu'on parle de mon repas préféré, dans la vie de tous les jours, le déjeuner.
Toi, tu déjeunes toujours?
Moi,
7 jours sur 7?
Moi, je peux pas partir ma journée là, si j'ai pas pris un bon déjeuner. C'est fou, hein? Je suis pas.
C'est quoi un bon déjeuner?
Moi, dîner, souper, c'est un peu facultatif, mais déjeuner, là.
Mais oui. Tu prends-tu ça faire des œufs?
Des œufs, pas nécessairement de la viande, mais des œufs tous les matins, des œufs, des toasts, là. Pour moi, c'est comme un incontournable. Okay. Mais c'est assez intéressant ce que sort, entre autres, là, le sondage de Cradle, qui est mené pour le toujours intéressant laboratoire d'analyse agroalimentaire de l'Université de Dalhousie. On reçoit très souvent le professeur Sylvain Charlebois un peu partout dans les médias, qui a d'ailleurs commandité là, ce sondage en question, qui voit en sorte que il y a 5% des Québécois qui mangent jamais le matin. Jamais le matin après le déjeuner. Non,
Je fais le jeûne intermittent. Je mange généralement pas. Mais la fin de semaine, je déjeune tout le temps. La fin de semaine, je déjeune là, 19 fois sur 20.
Oui,
tu es un bon déjeuner. Je me lève moins tôt. J'ai le temps de faire déjeuner avec ma blonde. Des fois, on va se faire ça, des petits œufs, petits jambons. On va prendre le temps. Là.
Mais à l'heure où tu te lèves le matin,
C'est pas juste ça. Là. C'est que c'est une des façons. D'abord, il y a beaucoup de gens qui prônaient ça, des cardiologues et autres, que c'est bon. Je sais que pour les gens qui font pas le jeûne intermittent, c'est un mystère. On t'anime le matin à 10h à TV, t'as le ventre vide depuis 7h la veille au soir. Oui, absolument, t'as pas faim. Non, zéro. La faim, c'est ce qu'il faut pas. Je pourrais pas, mettons, manger à 7h le matin une framboise.
Non, ça,
parce
c'est
que là, je viens de partir mon système salivaire, mon système digestif, et là, je vais vouloir manger mon bureau, là, tu comprends? Oui. Mon écran d'ordi.
Ce serait dommageable pour LCN.
Oui, mais tant que tu manges pas,
ça va.
T'as pas faim, puis t'as une excellente... En fait, j'ai plus d'énergie en ondes les matins. Parce que des fois, je déjeune exceptionnellement, mais j'ai plus d'énergie en ondes quand je mange pas que quand je mange.
Mais là, tu vois, ça fait en sorte que tu te classes pas nécessairement dans ta tranche d'âge.
De jamais, non!
Parce que
c'est les jeunes qui déjeunent pas.
C'est les jeunes qui déjeunent pas, puis c'est ce qu'on apprend particulièrement là-dedans, là, la génération Z. Là. Donc, tout le monde qui est entre 97-2005... T'es jeune, Mario.
À ma façon.
Il y a encore des gens qui vont t'appeler toujours le jeune Mario Dumont. Oui. Hein, le petit Dumont. Ça, c'est comme éternel. Hein?
Ça se passe. Oui.
Avec les années, ça devient peut-être mieux de se faire appeler comme ça pour toi. Écoute, entre 97-2005, les jeunes qui sont nés dans ces années-là, on parle de 19% qui prennent rarement le temps de déjeuner. Là. Pour les autres catégories d'âge, on est à 10%. Là. C'est presque du double là-dedans pour les jeunes donc qui déjeunent
pas
le matin.
Mais en fait, toute l'échelle des âges, plus on est jeune, moins on déjeune.
Voilà, hey, c'est bien. Tu vois,
ouais,
c'est
non, bon mais ça rime, là, mais c'est ça quand même. Plus on est jeune, moins ce repas-là prend de l'importance. Il y a plus de jamais, puis il y a plus de rarement là, chez les jeunes.
Voilà, c'est ce que ça révèle. Puis une autre donnée qui est assez intéressante, merci. Les jeunes sont deux fois moins nombreux à boire du café que les générations plus jeunes, plus vieilles.
Là, je suis surpris, il me semble que les jeunes. Les jeunes prennent du café, il me semble. Hey, ça a l'air que non. Là,
ben, ça a l'air que non.
Mais est-ce que les jeunes, parce que là, moi, je déjeune pas consciemment, ou tu sais, c'est ben pour arrêter de grossir notamment, là, pour contrôler mon poids, dis-je.
Voilà.
Bien dit. En fait, initialement, c'était pour perdre un peu de poids.
Ah.
Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'en perdais pas, mais que ça avait pour effet que j'en prenais plus. Fait que je me suis dit, il faut au moins récolter le bénéfice qu'on a. J'en prends plus, voici le bénéfice. Mais donc, j'allais dire... Est-ce que les jeunes prennent pas le déjeuner dans une conscience de faut manger moins, le repas, ou est-ce que c'est juste parce qu'ils sont pas levés? Ils ont pas le goût de manger, ils se lèvent trop tard.
Il y a un peu de tout ça.
Ah,
là-dedans, il y en a qui veulent tout simplement pas se lever, il y en a pour qui ça rentre pas. Le matin, hein, c'est la nourriture, ça rentre pas, ça passe pas.
Quand t'as le cœur, ça flotte, ça peut être le signe de d'autres choses aussi, là. Ça peut être le signe que t'es une personne dont le métabolisme est lent le matin, mais ça peut être le signe que t'as consommé la veille et t'as pas le goût de manger en
t'es en train de dire que les jeunes cégepiens universitaires sont ça à brosse, Mario?
Mais s'ils font ça, c'est une erreur. Il faut manger le lendemain.
Oui.
Beaucoup. Gras.
Ça fait du bien, ça.
Ah ouais, faut mettre du solide dans l'estomac, là. Tu laisses pas le liquide balloter. Le liquide de la veille qui ballotte dans l'estomac, c'est pas bon. Envoyez-y une éponge, là.
À garder pour plus tard, Mario. Chronique, hangover, comment gérer ça? Je pense qu'on aurait deux, trois trucs à donner.
Je suis bon conseiller, ouais.
Le monde.
C'était évidemment l'énorme nouvelle médiatique ce matin, le décès d'un Américain qui a marqué les esprits pour les bonnes et pour les moins bonne raison. O.J. Simpson, vedette du football, mais également un homme criminalisé là, dans sa vie qui a été retrouvé mort aujourd'hui, décédé à 76 ans d'une bataille contre un cancer de la prostate. C'est sa famille ce matin qui l'ont annoncé. Et là, ben ça a ramené aujourd'hui toutes les images célèbres hein, de O.J. Simpson.
La poursuite du Bronco Blanc, les gants qui ne fêtent pas tout à fait.
Ouais, exact. Le procès du siècle dans lequel il s'est retrouvé et qui l'a trouvé innocent d'un double meurtre de sa sa femme et d'un autre individu au terme du procès le plus médiatisé de l'histoire, j'allais dire des États-Unis, mais probablement du monde, là. Un procès...
Procès en direct, là. Hein? Ouais. Tout, c'est pas compliqué, t'avais, je sais pas combien il y avait d'humains sur Terre à l'époque, là, mettons 6, là, tu devais avoir 3 milliards de jurés. Tout le monde avait son opinion, tout le monde suivait les détails tous les jours aux nouvelles ou des fois en direct. Il y en a qui suivaient, il y a des gens qui suivaient ça en direct, là, qui se scotchaient là devant la télé, suivaient le procès comme s'il était un juré pour vrai. Là.
Un procès avec une équipe d'avocats absolument phénoménaux. Là. On va retenir ça aussi là, dans l'histoire. Là. Johnny Cochrane qui est mort depuis ce temps-là, mais qui avait donné toute une défense, le gant justement, qui ne rentrait pas sur sa main ou du moins...
La phrase, on me l'a rappelé aujourd'hui, la phrase, il avait dit « If the glove gloves don't fit, you must acquit. »
Exact. Une phrase
si les gants rentrent pas bien, vous devez l'acquitter. Mais en plus, en anglais, ça rime.
Voilà. Donc, un procès historique et O.J. Simpson qui avait été avant ça. Mais une vedette hein, aussi de la Ligue nationale de football aux États-Unis. Donc, son décès aujourd'hui, ça a ramené toutes sortes de souvenirs parce que, qu'il l'ait voulu ou non, il a été un pan important de l'histoire américaine.
Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.